Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont brusquement refroidies ces derniers jours en raison de l'exécution d'un opposant chiite par Riyad début janvier. Pourtant, ce dérèglement diplomatique important apparaît aussi comme un événement collatéral du raidissement de la politique intérieure du royaume saoudien. En effet, selon le chercheur Stéphane Lacroix, c'est bien la menace djihadiste saoudienne qui est avant tout dans le viseur du roi Salman, dans un contexte de mesures économiques et sociales difficiles et donc bien avant la question chiite. Mais c'est aussi un message adressé à l'allié américain, jugé trop complaisant à l'égard de l'ennemi iranien. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
L'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après la détérioration de son ambassade à Téhéran lors de manifestations anti-saoudiennes. C'est la suite de l'exécution d'un haut dignitaire chiite saoudien, par ailleurs opposant à la famille iranienne, Cheikh Nimer Bakr al-Nimer. Dans la foulée, d'autres pays comme le Soudan, la Somalie, Bahreïn ou Djibouti ont également rompu leurs relations avec l'Iran, tandis que les Émirats arabes unis se contentaient de réduire leur représentation à Téhéran. Stéphane Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Professeur associé à l'École des Affaires internationales de Sciences Po Paris et chercheur au CERI, le Centre de Recherche International. Vous avez publié dans la revue Pouvoir, début 2015, l'Arabie Saoudite, un magistère sur l'islam contesté. Stéphane Lacroix, les tensions avec l'Iran sont nées avec donc cette exécution du dignitaire chiite saoudien, Nimer Bakr al-Nimer, le 2 janvier dernier. Était-ce la principale cible des 47 exécutions ?
Alors, les tensions avec l'Iran, elles sont anciennes en vérité. Ça remonte à la révolution islamique, 79. Et depuis les années 80, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont des relations extrêmement compliquées. Alors il y a des hauts et des bas, il y a eu des moments de rapprochement relativement court, mais il y a aussi eu des moments de rapprochement. Mais pour l'essentiel, depuis 35 ans, ça va plutôt de mal en pis entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc là, c'est un coup supplémentaire, mais dans une longue succession de crises entre les deux pays. Alors, cette exécution, effectivement, on a beaucoup parlé de Nimer al-Nimer. C'est d'ailleurs ça, effectivement, qui a fait la une de l'actualité. C'est ça qui a provoqué ces réactions violentes en Iran et puis la rupture des relations diplomatiques. C'est évidemment pas le seul enjeu du tout dans cette histoire. Parce que ce qu'on a moins dit, c'est que l'Arabie Saoudite a exécuté 47 personnes, dont 43 sunnites liés à la mouvance djihadiste sunnite, parmi lesquels le principal idéologue d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, première version. On oublie parfois que Al-Qaïda dans la péninsule arabique est aujourd'hui basé au Yémen et qu'il est depuis 2009, a existé dans un premier avatar en Arabie Saoudite à partir de 2003. Et puis, il y a un certain nombre d'attentats en 2003-2004 en Arabie Saoudite contre des zones résidentielles où vivaient des étrangers en particulier. Puis il y a eu aussi des attentats contre la police et le ministère de l'Intérieur saoudien. Et puis, une fois que cette organisation a été affaiblie en Arabie Saoudite, elle est partie se réinstaller au Yémen. Pour le moment, les Saoudiens n'avaient jamais exécuté d'idéologues djihadistes sunnites de cette ampleur. Et pour moi...
Et celui qui a été exécuté,
il s'appelle Fares Zahrani.
Il était en prison depuis 2004.
Il était en prison depuis 2004. Il avait été arrêté à la suite de cette campagne terroriste, donc d'Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, première version.
Mais alors, pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant ? Parce que je pense que les Saoudiens perçoivent la menace de l'EI. Il faut se souvenir que dans les 15 derniers jours, il y a eu une campagne rhétorique de l'EI extrêmement violente contre l'Arabie Saoudite. L'État islamique a publié à la mi-décembre une quinzaine de vidéos. C'est la nouvelle technique de l'EI maintenant quand ils font une offensive médiatique groupée. C'est-à-dire que tous les gouvernorats, toutes les sections de l'EI publient quasi simultanément des vidéos sur le même thème. Début du mois de décembre, c'était sur Israël. Et puis à la mi-décembre, c'était sur l'Arabie Saoudite, sur le thème « L'Arabie Saoudite est la prochaine cible ». Les Saoudiens prétendent être les défenseurs de l'islam sunnite, ce sont des hypocrites, des corrompus et même des mécréants. Et l'un des thèmes qui apparaît dans ces vidéos, c'est précisément que les Saoudiens n'en font pas assez pour défendre l'orthodoxie sunnite contre le chiisme et n'en font pas assez contre l'Iran. D'ailleurs, on voit que l'EI, depuis longtemps, essaye de jouer sur cette carte. Quand l'EI a commis des attentats en Arabie Saoudite, la plupart ont eu lieu dans la province orientale, c'est-à-dire dans la région d'Arabie Saoudite où vit la minorité chiite, contre des mosquées chiites, précisément pour montrer qu'il y a en Arabie Saoudite des chiites qui ont des mosquées, qui pratiquent leur foi chiite, tant qu'il ne s'agit que de foi, sans grande contrainte. Alors il y a d'autres contraintes qui pèsent sur les chiites en Arabie Saoudite, qui sont d'ordre politique, économique, social, mais il y a des mosquées chiites qui fonctionnent, où les chiites ont leurs rituels, etc., et pratiquent leur foi. Pour l'EI, c'est évidemment inacceptable. On voit que l'EI est dans un message beaucoup plus intransigeant vis-à-vis des chiites. Et donc, là aussi, faire ces attentats dans la province où vit la minorité chiite, et toute cette rhétorique sur le mode l'Arabie saoudite se prétend défendre le sunnite, mais en réalité, elle est beaucoup trop clémente envers les chiites, ça c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable pour les Saoudiens. Donc pour revenir à cette exécution, les Saoudiens font d'une pierre deux coups, si vous voulez. D'un côté, ils envoient un message clair contre les djihadistes sunnites, en exécutant un idéologue djihadiste sunnite d'une importance inédite en Arabie Saoudite, hein, ils n'ont jamais fait quelque chose comme ça, et dans le même temps, pour faire bonne mesure, on exécute 4 chiites avec 43 sunnites, pour évidemment ne pas être accusé de n'exécuter que des djihadistes sunnites, puisque là, les Saoudiens seraient pris en défaut, entre guillemets, d'antichiisme, si vous voulez. Donc ils sont obligés de maintenir cet équilibre confessionnel un peu malsain, d'une certaine manière aussi.
Donc c'est une sorte de grand écart. Est-ce que c'est consécutif de la façon dont s'exerce le pouvoir saoudien ?
Oui, effectivement. C'est-à-dire que les Saoudiens sont les dépositaires et les garants de cet islam qu'on dit wahhabite ou salafiste, qui est un islam, comment on peut dire, puritain, littéraliste, sunnite, et qui se veut être l'orthodoxie sunnite dans sa forme la plus pure. Donc, par nature, quand on regarde les textes de Mohammed Abdel Wahhab, qui est l'inspirateur de cette doctrine religieuse en Arabie Saoudite, il y a de toute façon un antichiisme qui est très clair. Et en même temps, l'Arabie Saoudite, c'est un pouvoir bicéphale qui est fondé sur ce pacte entre les religieux et les princes, entre la famille Saoud d'un côté et ce qu'on appelle l'establishment religieux, c'est-à-dire les clercs qui sont les dépositaires de la doctrine religieuse, avec en permanence des accommodements entre les uns et les autres. Et donc, d'un côté, l'Arabie Saoudite est la protectrice du message religieux et en théorie donc doit défendre l'orthodoxie sunnite contre les chiites. En réalité, les princes font beaucoup de réal politique et les oulémas, c'est-à-dire les clercs, tolèrent cette réal politique dès lors que les apparences sont préservées. Donc la réal politique vis-à-vis des chiites, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les Saoudiens prennent par la conquête au début du XXe siècle les régions où vivent les chiites, bah finalement ils vont s'accommoder de la présence des chiites. D'un côté, on leur applique certaines discriminations parce que leur foi est contraire à l'orthodoxie dont là encore le royaume a fait son islam officiel. D'un autre côté, la manière dont les Saoudiens traitent avec leurs propres chiites est une manière relativement pragmatique. On coopte des notables et des élites chiites, on en a même quelques-uns qui sont représentés au Majlis al-Shura, hein, qui est le parlement nommé saoudien, mais vous avez des dignitaires chiites qui sont représentés, le roi reçoit régulièrement des chiites, etc. Donc évidemment, les wahhabites purs et durs seraient pas d'accord, mais précisément, ça fait partie de, là encore, cette complexité de l'Arabie saoudite, où il y a à la fois du religieux et il y a à la fois du politique, et quelquefois, le religieux cède la place au politique et réciproquement.
Mais alors, aujourd'hui, donc, ces exécutions, on a bien compris que d'abord, c'est une affaire intérieure, mais il y a l'incidence sur les rapports avec l'Iran, et or, l'Arabie saoudite était plus ou moins engagée dans une sorte de normalisation. Un ambassadeur saoudien devait se rendre à Téhéran, tout cela donc tombe à l'eau. Est-ce que ce n'est pas une erreur finalement d'avoir exécuté ce cher chiite ?
Je suis pas sûr, moi, que cette normalisation, elle était prise au sérieux par aucun des deux acteurs. On a l'Arabie Saoudite et l'Iran sont vraiment à couteau tiré dans la région. Ils se mènent au Yémen et en Syrie une guerre par procuration entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les Saoudiens, quand ils sont intervenus au Yémen avec cette coalition de 10 pays musulmans, au mois d'avril 2015, l'ont fait explicitement contre ce qu'ils considèrent être un pion iranien, ce qui sont ces miliciens houssis, qui à Riyad ne sont vus que comme un suppôt de Téhéran, même si la réalité est plus compliquée que ça. Mais c'est comme ça que Riyad le voit. Donc, je veux dire, les deux pays sont à couteau tiré depuis longtemps. Ce deal nucléaire, hein, cet accord nucléaire entre Washington et l'Iran, ou entre le P5+1 et l'Iran, a beaucoup énervé les Saoudiens. Donc, pour moi, en réalité, je veux dire, ni les uns ni les autres ne prenaient au sérieux la normalisation.
Alors, justement, est-ce que c'est un message plutôt aux États-Unis, qui, eux, sont engagés dans une normalisation avec l'Iran?
C'est certainement un message aux États-Unis. Les Saoudiens se sentent abandonnés. Ils considèrent que les États-Unis sont devenus trop pro-iraniens, en tout cas sont trop soucieux de construire une relation cordiale avec Téhéran. Et les Saoudiens considèrent que l'Iran est la première menace pour leur sécurité. Donc ils se sentent abandonnés par les Américains. Et c'est très clair qu'avec cette crise qu'on voit se déployer aujourd'hui, l'un des objectifs des Saoudiens, c'est aussi de pousser les Américains à choisir leur camp. Et de dire aux Américains, nous sommes vos alliés historiques. Il faut se souvenir quand même que la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, elle remonte à 1945, hein, très ancienne. Le premier allié des Américains au Moyen-Orient, ça a été l'Arabie Saoudite, à une époque où les Américains étaient absents du Moyen-Orient. Donc les Américains sont entrés au Moyen-Orient via l'Arabie Saoudite il y a 70 ans. Les Saoudiens cherchent à se rappeler au bon souvenir de leurs alliés en disant, écoutez, voilà, maintenant, vous pouvez plus jouer ce double jeu. Il va falloir choisir votre camp. Vous êtes avec nous, vous êtes avec les Iraniens.
Merci Stéphane Lacroix, chercheur au CERI et professeur associé à la Paris School of International Affairs de Sciences Po. Vous avez publié en 2011, je le rappelle, « Les islamistes saoudiens, une insurrection manquée » et aussi en 2015, un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Bernard Rougier, « L'Égypte en révolution » et aussi « Saudi Arabia in Transition », un livre en anglais publié cette année chez Cambridge University Press.
Merci beaucoup.
Orion Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la crise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran continue de faire la une des journaux panarabes qui, pour beaucoup, tire à boulet rouge sur Téhéran.
Oui, et rappelons que cette crise a éclaté après l'exécution par l'Arabie Saoudite du chef religieux chiite Nimr Bakr Nimr, puis l'attaque contre l'ambassade saoudienne à Téhéran. Alors les titres de la presse sont révélateurs. Schizophrénie iranienne, l'Iran reconnaît utiliser le sectarisme, la garde révolutionnaire iranienne, un passé lourd en crimes. Pour de nombreux éditorialistes, en fait, l'Iran conspire contre les pays du Golfe en soutenant le régime Assad en Syrie, en nourrissant le sectarisme de la majorité chiite en Irak et en cherchant à agiter les chiites de Bahreïn et en apportant aussi son appui aux rebelles houthis au Yémen. Alors la presse souligne en fait que le soutien arabe à l'Arabie Saoudite est unanime.
Toutefois, Alexandre, il y a aussi des journalistes qui critiquent l'Arabie Saoudite.
Oui, plusieurs journalistes estiment en fait que l'Arabie a cherché délibérément à provoquer l'Iran en exécutant le chef chiite Nimr Bakr Nimr, une exécution qui, selon ces journaux, fait partie de la politique agressive qui est menée par l'Arabie Saoudite depuis l'arrivée du roi Salman au pouvoir à Riyad et surtout de son fils Mohammed bin Salman, qui est vice-prince héritier. Alors ce dernier est aussi ministre de la Défense et il est considéré comme le vrai dirigeant d'une Arabie revenue à un wahhabisme pur et dur, une doctrine qui prône un islamisme religieux radical et violemment opposé à ce qu'il considère comme étant le danger chiite. L'éditorialiste du journal libéral égyptien Al-Maqal accuse même l'Arabie Saoudite de déstabiliser les pays dits du printemps arabe par le biais de son soutien aux salafistes radicaux.
Alors, pas beaucoup d'intérêt pour cette affaire irano-saoudienne dans la presse israélienne. Michel Paul, vos journaux sont toujours focalisés sur la situation sécuritaire.
Oui, et même de plus belle après l'attentat de la rue Dizengoff à Tel Aviv la semaine dernière. Les commentateurs soulignent le fait que l'auteur de l'attaque est un arabe israélien et que l'arme qu'il a utilisée était une arme dûment enregistrée qui appartenait à son père, qui est gardien de sa profession. Alors, beaucoup de questions ont été posées, notamment sur la prolifération des armes au sein de la population arabe israélienne, pour la grande majorité illégale, et qui provoque souvent des victimes lors de fantasia pendant les mariages notamment. Un éditorialiste de Marie va plus loin et il écrit qu'il faut en finir avec le mythe des Arabes qui veulent vivre en coexistence pacifique avec des Juifs. Beaucoup d'articles aussi sur la facilité avec laquelle l'auteur de l'attaque a pu prendre la fuite après la fusillade, qui a fait en tout 3 morts. La presse titre aussi sur l'arrestation d'une cellule du Hamas dans la région de Jérusalem, qui s'apprêtait, indique-t-on, à enlever des Israéliens. Un pas de plus, expliquent les chroniqueurs dans la vague de violence actuelle.
A signaler encore, Michel, le renouveau des relations Israël-Turquie.
Oui, on parle beaucoup de ces négociations entre Israël et la Turquie sur la normalisation donc de leurs relations. Haaretz donne ce week-end une information intéressante. Il s'avère, Eric, que l'Égypte s'intéresse de près à ces pourparlers et la raison en est simple. L'intérêt que porte Erdogan à la bande de Gaza. Selon Haaretz, le Caire aurait demandé des éclaircissements à Israël sur les allègements qui pourraient être apportés au blocus de Gaza et aussi sur le rôle que la Turquie entend jouer dans le secteur. Conflit d'intérêts entre puissances régionales.
Alexandre, plusieurs éditorialistes de la presse égyptienne s'élèvent contre l'emprisonnement de l'islamologue Islam Beheri.
Oui, tout à fait. Un juge vient de condamner Islam El-Beheri à 1 an de prison ferme pour mépris de l'islam. Alors une accusation qui, selon la presse, menace tous les islamologues rénovateurs en Égypte, mais aussi une épée de Damoclès pour nombre de penseurs, d'écrivains, de journalistes, de blogueurs et même de simples usagers de Facebook et Twitter. Une 50aine d'entre eux, selon les journaux, sont poursuivis en vertu de ce chef d'accusation qui est très vague et qui permet d'emprisonner quiconque est mal vu par les islamistes radicaux ou même par la grande mosquée d'Al-Azhar. Islam Beheri avait appelé dans un programme de télévision à remettre en question une bonne partie du corpus des hadiths, c'est-à-dire les citations prêtées au prophète Mahomet, notamment dans les recueils de l'imam Bukhari.
Michel Paul, des problèmes de santé à la une, expliquez-nous.
C'est peut-être le sujet qui touche le plus près les Israéliens cette semaine. Il figure donc en bonne place dans les quotidiens. L'adoption d'un nouveau panier de médicaments remboursés par la sécurité sociale israélienne, une décision qui, tous les ans, donne lieu à des campagnes de soutien et aussi à de nombreux drames. Par exemple, font remarquer les journaux, cette année, les médicaments liés à la maladie de Parkinson n'ont pas été inclus dans la liste. Le prix de la vie, titre un quotidien. L'espoir et la déception, c'est le titre que l'on trouve dans un autre journal.
Alexandre, le journal Al-Quds Al-Arabi se fait l'écho d'une polémique au Maroc au sujet de la place de la femme dans la société.
Oui, une polémique qui a éclaté après l'affichage par le patron d'un restaurant populaire de la ville de Salah, près de Rabat, d'une directive selon laquelle les sièges étaient réservés uniquement aux hommes. Pour de nombreux éditorialistes et internautes marocains, c'est un mépris délibéré pour les femmes et aussi un mépris de la Constitution qui stipule l'égalité des hommes et des femmes. Interrogé par le journal, le patron du restaurant, décrit comme un islamiste radical, a déclaré qu'il était libre de faire ce qu'il voulait et que sa décision était une application des préceptes de l'islam.
Michel Paul, une question. Peut-on tout acheter quand on est milliardaire ?
Yedioth Ahronot travaille depuis des mois sur un projet singulier. La rédaction du quotidien a créé de toutes pièces un oligarque russe, Roman Gourzinski, un nom donc qui a été inventé. Il s'est présenté comme un philanthrope. Il a fait des propositions alléchantes à des musées, des hôpitaux et des organisations bénévoles. Et nombreux sont ceux qui sont tombés dans le piège. Le musée de Tel Aviv a accepté, par exemple, d'exposer une œuvre médiocre de ce faux oligarque aux côtés d'un Picasso. Et puis Eric, tenez-vous bien, le jardin zoologique de Jérusalem a accepté de nommer après lui un requin et par contre de donner le nom de 2 de ses adversaires, respectivement à un singe et à un serpent.
Pour conclure Michel, votre photo du jour ?
Eh bien c'est la photo du nouveau billet de 200 shekels introduit il y a tout juste 1 mois. La Banque d'Israël avait affirmé qu'il était inimitable. Eh bien la presse montre ce week-end les premières contrefaçons qui sont apparues sur le marché et elles sont très convaincantes.
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.